Alors, bon dimanche matin, juste un instant. Et je vais vous demander de tourner dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, Éphésiens 2. Et on va premièrement faire une petite introduction au... une révision de qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, très brièvement. Premièrement, au chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit au début, au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, c'est l'état dans lequel nous étions. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'un mort, ce n'est pas vivant. C'est mort. C'est la condition dans laquelle nous étions. Et là, Paul dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, là, il parle aux Éphésiens, hein, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on marchait dans le monde. C'est-à-dire que Paul dit aux Éphésiens qu'ils marchaient dans le monde et qu'ils étaient sous la domination, je dirais, du prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Et c'est cet esprit-là hein, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire ceux qui sont des pécheurs non sauvés. Mais Paul passe du « vous » au « nous » maintenant. Et ce « nous-là », ça inclut Paul, les Juifs, et j'ajouterais « nous » aussi au 21e siècle. C'est-à-dire que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire du côté des méchants. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair, elle est tentée par toutes sortes de choses. Et c'est dur parfois d'y résister. On a beaucoup de difficultés à contrôler notre chair, que ce soit par les belles choses qu'on voit, les voitures, les maisons, en tout cas, toutes ces choses-là, que ce soit par la sexualité, que ce soit par tous les domaines. La chair est difficile à contrôler. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on accomplissait justement les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, ceux d'avant qu'on a parlé. Ça veut dire que lorsqu'on est une personne non sauvée, une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est un enfant de la colère. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas aimé. Et on va aller un peu plus loin tantôt. Mais c'est un enfant de colère tant qu'il demeure sous l'emprise de Satan. Tant qu'il est contrôlé par la chair. Au verset 4, il arrive quelque chose de merveilleux. Et à chaque fois qu'il y a un « mais » dans la Bible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, en pardon, à cause du grand amour dont il nous a aimés, quel est cet amour-là? Évidemment, c'est en Jésus-Christ, son Fils. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous qui étions morts à cause de nos péchés, il nous a rendus vivants. Il nous a ressuscités avec Christ. Et là, dans un élan de joie, c'est plus fort que lui, il dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ça s'applique à nous. Tous ceux qui sont nés nouveaux ici ce matin, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Notre frère Mathieu, tantôt, nous a lu les versets 6, 7, 8 et 9. Et nous allons voir ensemble, justement, ces quatre versets-là qui nous parlent de ce qui s'est passé vraiment. Quelle est notre position maintenant? Et on va tout voir ça ensemble. Avant, on va se courber et demander au Seigneur qu'il puisse nous ouvrir les yeux. Tendre Père, fais silence dans nos cœurs. Ouvre nos yeux. Ouvre notre pensée à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Utilise-moi, Seigneur, comme un outil dans ta main. Que mes frères et sœurs puissent comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté. Comprendre tout ce que tu as fait pour nous. Du moins, tout ce qu'on peut comprendre maintenant. Parce que pour l'éternité, nous allons en apprendre jour après jour. Merci, Père, pour ta parole qui est pour nous. Ton testament, Seigneur. Et bénis ce temps ce matin. En Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous avons été ressuscités ensemble. On va regarder le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'a pas été ressuscités des morts pour ensuite être laissés dans la tombe. Ça ne ferait pas de sens, pas tout. On a été rendus vivants avec Christ, et nous sommes ressuscités avec lui. La mort et le jugement sont des choses du passé pour lui, pour le Seigneur. Puis c'est la même chose pour nous. La même chose pour nous. La conséquence de notre union avec le Seigneur est notre position glorieuse. Vous allez vous demander, c'est quoi notre position glorieuse? À cause de notre union avec Christ, bien Christ nous a ressuscités avec lui, ce qui fait que nous partageons son trône avec lui dans les lieux célestes. On est avec lui dans les lieux célestes. Il faut comprendre ici que notre position physique, ici sur la terre, physiquement on est ici sur la terre, mais spirituellement, notre position spirituelle est dans les lieux célestes avec Christ Jésus. C'est là qu'on est. C'est là que Dieu nous voit. Et notre position en lui est une réalité. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Donc, nous, on se doit, on n'a pas le choix, en tant que chrétien, de vivre comme ceux qui sont ressuscités des morts. Ceux qui sont nés de nouveau. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est sûr qu'il arrive des fois où, que, malheureusement, notre chair l'a emporté, mais Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux, Dieu t'aime. Il y a encore un autre aspect de notre position, c'est que on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez remarqué qu'en Jésus-Christ, ça revient souvent. Hein? Avec lui, en Jésus, ça revient souvent. Et j'aime cette comparaison-là qui dit ceci, tout comme Lazare, on a été appelé hors de la tombe pour nous asseoir avec Christ. Hein, vous vous souvenez dans Jean 12, lorsque Jésus dit « Lazare, sors de ce tombeau. » Et que j'aurais aimé ça être là pour voir ça. Là, tu regardes dans le trou de la tombe, là, puis tout d'un coup, tu vois un paquet de linge qui sort, là, tu sais, là, une personne en... Wow! Si vous voulez tourner dans Jean 12, puis je pense que je l'ai au tableau, Lazare a été ressuscité, il est sorti de la tombe et il prend plaisir dans sa communion avec lui. Gardez bien Jean 12, 1 et 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. OK? Ça, c'est pour établir la chose. Là, on lui fit un souper. On fait un souper à Jésus. Marc le servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, Lazare, la personne qui a été ressuscitée, était maintenant en communion à la table du Seigneur. C'est une belle comparaison, un beau passage qui nous fait penser à notre position, où nous allons être, où nous sommes. Frères et sœurs, c'est par notre union avec lui que nous sommes considérés déjà maintenant délivrés de ce présent monde mauvais. Et nous sommes assis en Jésus-Christ dans la gloire. C'est comme ça que Dieu nous voit. Si on s'approprie ce fait par la foi, on va revenir à la foi tantôt, là. Mais si par la foi, là, vous croyez à cela, c'est, le caractère de notre vie change. Et là, maintenant, on n'est plus attaché à cette terre-là. De moins en moins, en tout cas. Et de même, on n'est plus accaparé jour après jour par ce qui est seulement de passager ou d'éphémère sur la terre. Pourquoi? Parce que notre position est là, en haut. Il n'y a plus de raison de s'accaparer des choses de la vie. Il n'y a plus raison d'être attaché aux choses de la terre. Notre vie est changée. Et par ce fait même, alors, nous recherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, 1. Un chant qu'on chante souvent. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Enfin, les mots clés au verset 5 et 6 sont l'expression suivante, « en Jésus-Christ ». C'est en lui que nous sommes venus à la vie. Rappelez-vous, on était morts. C'est en lui que nous sommes revenus à la vie. C'est en lui que nous avons été ressuscités et que nous sommes assis avec lui. Christ, c'est notre représentant. Et les triomphes du Seigneur, sa position dans les cieux, sont aussi la nôtre. Maintenant, on passe au verset 7. Lorsqu'on étudie la Bible, on cherche à l'étudier verset par verset. Lorsqu'on la prêche aussi, de plus en plus, on prêche verset par verset pour mieux comprendre. Et le verset 7 nous dit, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » L'objectif de Dieu dans notre salut, hein, dans notre rédemption, c'est pas simplement de nous délivrer de l'enfer. Même si le fait d'être délivré de l'enfer, c'est quelque chose de grandiose. Non, son objectif ultime dans notre salut, c'est que pour toute l'éternité, l'Église puisse célébrer la gloire de sa grâce. Et c'est ce qu'on va faire pendant toute l'éternité. Éphésiens 1, verset 6. Regardez bien ce que Paul dit. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour cela. Au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et enfin, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. C'est un miracle, hein? Le miracle de la grâce qui transforme. Et ce sera le sujet de révélation éternelle. Et laissez-moi vous dire qu'on ne se lassera pas de l'entendre. Pendant toute l'éternité, Dieu nous dévoilera ce que cela lui a coûté d'envoyer son Fils Jésus dans cette jungle, qu'on pourrait dire, jungle du péché, ici sur la terre, et ce que cela a coûté au Seigneur Jésus de porter notre péché sur la croix. C'est un sujet qui ne sera jamais épuisé. Jamais. Et Paul accumule des mots ici afin de nous faire percevoir quelque chose de cette immensité-là. Là. Hein? Il parle de sa bonté envers nous. Paul parle de sa grâce par sa bonne bonté envers nous. La richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Donc, si Dieu va nous révéler tout cela pendant l'éternité, on n'a pas fini d'Abraham. Il n'y a pas de fin. Aucune fin. Le ciel, ça va être notre école. Dieu va être notre maître et le sujet va être la grâce. On va être des élèves. J'espère qu'il y en a qui aiment l'école ici. Et le semestre sera l'éternité. Amen. Oh, ça sonne pas fort, là. C'est vrai que je suis sourd d'une oreille, là. J'ai un problème avec une oreille, là. Mais... Donc, ça devrait nous libérer de l'idée que quand nous serons au ciel, on va tout savoir. Non, c'est pas vrai. On va savoir beaucoup de choses. On ne sera pas tout. Parce que seul Dieu sait tout. Et nous ne serons jamais à égalité avec lui. Vous savez ce qui est arrivé à Lucifer lorsqu'il a voulu être l'égal de Dieu? Il a péri. Et ça ne se reproduira plus. Donc, si Dieu a un objectif éternel pour nous, dans le but qu'on l'accomplisse, bien, il va nous garder en lui pour toute l'éternité. Puis, compte tenu que on n'a pas été sauvé par nos propres bonnes œuvres, bien, on ne peut pas être perdu à cause de nos mauvaises œuvres. Ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Passons au verset 8, et c'est, je crois, un des plus beaux passages de la Bible. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les trois versets suivants, c'est-à-dire versets 8, 9 et 10 qu'on verra la semaine prochaine, constituent une déclaration, hein? Je crois les plus clairs du plan du salut qu'on puisse trouver dans la Bible. Et cela, c'est dans toute sa simplicité. C'est pas dur, hein? Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Tout prend son origine avec la grâce de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui prend l'initiative en pourvoyant cette grâce. Et le mot « grâce » signifie que Dieu a tout fait. Et il a tout fait pour l'amour, pour la cause de son Fils Jésus. Le salut est donné à ceux qui en sont entièrement indignes. Il n'y a personne de nous qui sommes sauvés ce matin qui était digne ou qui méritait d'être sauvé. Comprenons cela dès là. Et nous étions indignes et nous avons été sauvés sur la base de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le salut nous est donné comme une possession présente. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés le savent maintenant. C'est pas « je pense, peut-être, j'espère d'avoir été assez bon ». Non. On le sait parce que tout a été fait par Dieu en Jésus-Christ. Notre salut, c'est un cadeau. C'est le cadeau de Dieu. Et je dois ajouter à cela que le salut, c'est un cadeau, pas une récompense. C'est pas une récompense. En écrivant aux Éphésiens, Paul dit « Vous êtes sauvés » et non « Vous serez sauvés ». C'est une erreur de dire que, souvent dans les services funéraires, que on dit que la personne est au ciel, mais après ça, après le sermon, bien là, on prie pour qu'elle aille au ciel. Non. Si c'est une personne qui était sauvée par grâce, qui est née de nouveau, est au ciel dès le moment qu'elle a arrêté de respirer. Et je crois qu'à l'Église, lorsqu'on fait les funérailles, on devrait le dire. Puis si on ne le sait pas, bien, cherchons dans les Écritures. Parce que c'est clair dans les Écritures ce qui est écrit. Paul le savait, les Éphésiens le savaient, et tous ceux qui sont nés de nouveau ici ce matin le savent. Tu le sais si tu vas au ciel ou non. La manière dont on reçoit le don de la vie éternelle, c'est par le moyen de la foi. La foi signifie que l'homme se reconnaît comme pécheur, un pécheur coupable et perdu, et qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme sa seule espérance de salut. Et il y croit entièrement. Lorsque tu as besoin, lorsque tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer, puis qu'on t'envoie une bouée, j'espère que tu crois que c'est le moyen pour que tu sois sauvé. C'est la même chose. Le Seigneur nous envoie cette bouée-là. Par grâce, il nous envoie cette bouée-là et nous, on n'a qu'à la recevoir par la foi. La foi authentique qui sauve, c'est l'engagement de quelqu'un envers une personne qui est notre grand Dieu. Le salut, c'est pas par les œuvres, parce que l'œuvre du salut a déjà été complétée, accomplie à la croix. C'est l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Et cette œuvre-là, elle est terminée. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. On ne recommence pas le sacrifice de Jésus comme on le fait ailleurs, chaque dimanche, en faisant descendre Christ du ciel dans l'hostie qui est présente. Ça, là, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Christ est mort une fois pour toutes. Nos péchés sont expiés, ceux de ceux qui sont sauvés, et maintenant, nous attendons son retour. Le sacrifice de la croix n'est pas recommencé. Tournez dans Jean 17. Je l'ai-tu à l'écran? Hein? Jean 17, c'est le contexte de la prière du Seigneur Jésus avant qu'il passe à la croix, c'est-à-dire au dernier souper. Et après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Et là, on peut lire, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et un peu plus loin, au verset 19, verset 30, regardez bien ce qui se passe. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Ajoutons-en plus tout a été accompli. Et là, il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. C'est pour ça que je dis, même si mes mots sont durs, c'est un blasphème d'ajouter à ce que Jésus a déjà fait, tout accompli. Et en plus, toute idée que l'homme puisse gagner ou bien mériter son salut, c'est exclu. Dans le passage qu'on vient de lire, dans le passage d'Éphésiens, par les mots, « Cela ne vient pas de vous. » Ça ne vient pas de nous autres. Les morts peuvent absolument rien faire et les pécheurs non repentis ne méritent rien d'autre que le châtiment de l'enfer éternel. C'est le salaire de leur péché. C'est ce que nous méritions tous. Mais il y a eu la grâce de Dieu. Le salut par grâce, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu. Un don, bien sûr, c'est un cadeau qui est gratuit. C'est un cadeau qui est inconditionnel. C'est la seule base sur laquelle Dieu offre le salut. Si tu ne veux pas accepter le don de Dieu comme étant un cadeau qui vient de lui, il n'y a pas de salut. Le don de Dieu, c'est le salut par grâce, par le moyen de la foi. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de péché trop grand. Même si tu es un chrétien ici ce matin, là, il n'y a pas de péché qu'on puisse commettre qui soit trop grave pour ne pas obtenir le pardon de Dieu. Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, t'a aimé le premier. Sa grande miséricorde, elle est pour toi. Et le Seigneur dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui frappe. Peu importe le péché que j'ai commis, les péchés que j'ai commis, peu importe nos péchés, même en tant que chrétien, Dieu, par sa grâce, si on va au pied de la croix lui demandant pardon, nous pardonne absolument, complètement. Ce salut-là, il est offert à tout homme, à toute femme, où qu'elle se trouve. Maintenant, verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Salut, c'est pas par les œuvres. Hein? C'est pas par quelque chose de bien que tu pourrais faire. C'est pas par quelque chose qu'on puisse gagner par des œuvres qu'on appelle méritoires, que l'on mérite. On ne peut rien ajouter et on ne peut rien y prendre pour se valoriser. Regardez Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, hein, une seule offrande, ça c'est l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tous les saints dans le Seigneur, là, par une seule offrande, on a été amené à la perfection pour toujours. Le passage ici-bas sur la terre, c'est temporaire. Et j'aimerais juste dire quelques exemples. Hein. Le salut ne peut pas être mérité par la confirmation. C'est faux. Par le baptême, on n'est pas sauvé. Le baptême, c'est un acte d'obéissance que j'encourage beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, on veut savoir s'il y a des gens qui aimeraient se faire baptiser. Être membre d'une église, ben, ça ne sauve pas. Mais moi, Seigneur, je suis fidèle au culte à tous les dimanches. Non, c'est pas ça qui sauve. Ça ne veut pas dire de ne pas venir. Ça veut juste dire de. C'est pas juste ça qui sauve. Ça ne sauve pas pantoute, ça veut dire. Participer à la scène. Hey, j'ai participé à la scène, Seigneur. Non. Même peut-être que tu n'aurais pas dû y participer. Ah, moi, je m'efforce d'observer les 10 commandements de Dieu. Tu ne seras pas capable. C'est impossible. Ah, moi, je veux vivre selon le sermon sur la montagne. Belle ambition, mais encore là, ça va être difficile. C'est pas ça qui sauve. Il y a des fois, on revoit des chrétiens aller, puis c'est loin d'être selon le sermon sur la montagne. Ah, moi, j'ai exercé la charité. Moi, j'ai été serviable envers mes voisins. Et j'ai vécu moralement et respectueusement. J'ai donné ma dîme. Non. C'est pas ça qui sauve. Personne. Personne ne peut être sauvé par des œuvres, pas plus que par la foi, plus des œuvres. On est sauvé par la foi seule. Seulement. Et à partir du moment qu'on ajoute des œuvres, quelles qu'elles soient, quelle qu'en soit l'étendue, et tout cela dans le but d'obtenir la vie éternelle, bien, le salut, c'est plus une grâce. Regardez ce que Paul dit dans Romains 11, 6. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus une grâce. C'est clair, hein? Je ne comprends pas que des gens qui ont étudié la Bible ne comprennent pas ça. Ils doivent avoir un intérêt. À la mort de Jésus, vous savez ce qui s'est passé, hein? Le temple, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, signifiant que l'accès à Dieu maintenant, la voie vers Dieu était maintenant ouverte pour les païens, autant comme les juifs. Et une des raisons pour lesquelles les œuvres sont radicalement exclues, c'est afin d'éliminer toute vantardise. Autrement dit, tous ceux qui passent à travers du voile, là, on n'a absolument rien à se vanter. Ce qui veut dire ceci. Si qui que ce soit pouvait obtenir le salut par ses propres œuvres, il y aurait de quoi se glorifier, hein? Mais Romains 3, 27 nous dit que c'est une chose impossible. Reste-t-il encore, Romains 3, 27, une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Encore une fois, un passage qui est clair, qui vient de Paul, il dit, y a-t-il une raison de se vanter? Non, c'est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte maintenant, ce n'est pas le mérite, c'est la foi. Et quand je parle de foi, ce n'est pas juste la foi de dire que je crois que vous êtes assis devant moi. Là. Non, non. C'est plus loin que ça. C'est la foi en Christ. C'est la foi où je suis un une personne qui va être un témoin de Christ pour toute ma vie et j'ai pas peur. Parce que lui, il me fortifie. Si qui que ce soit pouvait être sauvé par ses propres bonnes œuvres, la mort de Christ aurait été inutile. Jésus, tu es venu ici, tu as souffert pour absolument rien. Galates 2:21. Hein, Paul encore nous dit, ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Mais on sait qu'il est mort, que le Seigneur est mort parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver des pécheurs coupables comme nous. Rappelez-vous le verset 1 d'Éphésiens 2. On était mort par nos offenses. Si qui que ce soit pourrait être sauvé par ses propres bonnes œuvres, il serait son propre sauveur. Il pourrait s'adorer lui-même. Puis ça, c'est l'idolâtrie. Puis Dieu ne permet pas ça. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et même si quelqu'un pouvait être sauvé par la foi en Christ, plus ses propres bonnes œuvres, on aurait une situation qui est impossible, soit celle de deux sauveurs, Jésus et le pécheur. Et là, Christ devrait alors partager la gloire d'être le sauveur avec un autre. Ça ne se fera pas, parce que Ésaïe 42, 8, on peut dire, « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. » Et enfin, si qui que ce soit pouvait contribuer à son propre salut par ses œuvres, Dieu lui devrait, d'une façon pour dire, il lui doit. Et encore une fois, Romains 11, 35 nous dit que c'est une chose impossible parce que Dieu ne peut pas rien recevoir en retour. Hein? Que lui qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour. Vous savez, en contraste avec les œuvres, la foi exclut la vantardise puisqu'elle n'a aucun mérite. En contraste avec les œuvres, excusez-moi, je me suis embrouillé. La foi exclut la vantardise. Bon, Romains 3, 27, reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce qu'il compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Personne ne peut se vanter d'avoir fait confiance au Seigneur. On ne peut même pas dire ça. Dieu a tout fait. Et il a tout fait par grâce. Et si tu es une personne sauvée ce matin, tu ne peux pas t'en vanter. Tu ne peux pas dire, hey, moi j'ai fait le bon choix. Non! C'est Dieu qui a tout fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun besoin pour les sacrifices terrestres. Les peuples qui font encore ça sont désaérés. Aucun besoin pour des sacrifices terrestres. Il n'y a plus besoin de sacrifices parce que l'agneau de Dieu a terminé cette grande œuvre du salut. Et là, mettre sa foi en lui, c'est la chose la plus judicieuse à faire. Une chose rationnelle et sensée que l'on puisse faire. Si nous ne pouvons pas lui faire confiance, à qui d'autre on va avoir confiance? J'aime ça l'expression, quand je vois un enfant là, à Noël, là, puis tu lui donnes un cadeau, puis là, il est deux mains de même. Bien, c'est les deux mains de même que le Seigneur veut que tu sois. Reçois son cadeau gratuit. Le péché a œuvré contre nous et Dieu a œuvré pour nous. Mais je conclue en vous disant que la grande œuvre de la conversion n'est que le commencement. Donc, on va poursuivre la semaine prochaine avec le verset 10. Et ce que nous voulons voir, c'est cette grande œuvre du Seigneur en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.